Nous aurons maintenant les lectures qui nous sont proposées, qui sont, comme il l'a déjà dit, assez étonnantes et difficiles. Alors c'est dans la version la TOB que je lirai ces textes. C'est le texte de Genèse 4, versets 1 à 16. Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit, « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons. Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel, lui, apporta aussi des prémices de ses bêtes et leurs graisses. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel, et, lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais, répondit-il, suis-je le gardien de mon frère » »« Qu'as-tu fait ? » reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'Orient d'Édon. Nous lirons encore un texte dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est des paroles du Seigneur. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos.
Je ne sais pas si je suis tout à fait normal. J'interdis à ceux qui me connaissent de répondre à ma place. Mais quand j'entends cette histoire de Caïn et Abel, elle me touche. Elle me touche profondément. Pas seulement parce que j'ai un frère, un grand frère, avec qui je me suis beaucoup battu à l'adolescence, mais parce qu'il y a derrière cette histoire, pour moi, quelque chose d'universel. Et cette universalité, c'est la violence. Peut-être que vous êtes déjà parti en vacances. Moi, je suis parti presque un mois. J'ai passé des vacances merveilleuses, notamment en Bretagne. Et quand je suis revenu, j'ai retrouvé mon bus VV dans le parking de mon immeuble et il était couvert de coups de clé sur deux des portes. Je me dis, bon, bienvenue à Genève. Et le lendemain, je sors de chez moi et je vois deux gars qui tracent après un troisième, sérieusement. Et puis, quelques minutes après, deux patrouilles de police qui arrivent et puis tout le quartier qui est un peu bouclé pour rechercher un gars qui a commis un acte de violence. J'habite au Petit Saconnet, hein, et ben, ça devient récurrent. On vit dans une ville où le sentiment d'insécurité augmente, disent les professionnels, les policiers, les juges. Et on voit des agressions, j'en ai vu. J'en ai été même, moi-même presque sujet récemment. Et cela donne un rappel que nous vivons dans un monde qui est violent. Alors vous n'êtes pas forcément au culte le dimanche matin pour qu'on vous rappelle ça. On se sent en sécurité ici, entre gens qui ont une éthique, qui ont un respect de l'autre, heureusement. Mais il n'empêche pas que dès qu'on sort, il peut y avoir une insécurité. Et même ici, on n'est pas totalement à l'abri. Le récit de Caïn et Abel, c'est peut-être le récit de quelqu'un qui essaye de dire quelque chose de la violence du monde et de son rapport à Dieu. Le récit de Caïn et Abel, c'est un récit qui n'est pas tout clair. Vous avez peut-être fait l'effort ce matin d'écouter vraiment, attentivement. Et si vous allez plonger votre nez dans la Bible, eh bien, vous en ressortirez en vous disant « j'ai toujours pas tout compris ». Et peut-être que c'est normal. Le récit n'est pas tout à fait clair. Dès le départ, on nous dit bon, que Adam connut Ève, sa femme, et que sa femme conçut un enfant avec le Seigneur. Déjà là, c'est un peu énigmatique. On peut dire que toute vie qui vient est un cadeau de Dieu, mais dire que c'est Ève qui conçoit un enfant avec Adam, son mari, mais aussi avec le Seigneur, ça c'est mystérieux. Il y a déjà, dès le départ, un lien particulier entre Caïn et le Seigneur. Il est vrai que Adam, Adama en hébreu, ça veut dire la terre ou le terreux. On voit pour Caïn qu'il y a un lien avec le sol. Et puis, on nous dit qu'il y a un lien aussi avec Dieu, un lien spirituel. Le deuxième enfant, Abel, à l'époque, personne, aucun parent, n'aurait nommé son enfant Abel. Pour la simple raison que l'étymologie veut dire « nuée »,« buée », »,« fumée ». C'est le même mot qui apparaît dans l'Ecclésiaste quand on dit « vanité des vanités, tout est vanité ». En hébreu, c'est Abel ou Havel, Havalim, Hakol, Havel, Havalim, vanité des vanités, tout est vanité. Ce n'est pas vraiment un compliment. Caïn et Abel. Vous avez entendu Michel Cretenny qui lisait en hébreu 11 le rappel de cet épisode de la Genèse ou un des rappels dans le Nouveau Testament. Quand j'étais adolescent à l'église évangélique à Vienne, on avait la Bible en bande dessinée et je me souviens très précisément de voir Adam offrir un sacrifice à Dieu, au Seigneur, et que son sacrifice est reçu parce que son intention est pure, et puis Caïn pas parce que Caïn il est méchant, ou son intention n'est pas pure. Bien dans les Hébreux, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que Abel, il a une intention qui est reçue par Dieu, par la foi. On va placer dans le cœur d'Abel et dans le cœur de Caïn la raison pour laquelle Dieu reçoit le sacrifice d'Abel et ne reçoit pas le sacrifice de Caïn. Et en fait, dans la Genèse, on ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas ça. On nous dit Caïn, pris du produit de son travail, des fruits, des légumes, en fait un sacrifice à Dieu, une offrande. Abel fait de même avec les prémices de ses animaux. Et puis, on ne sait pas pourquoi, on ne nous dit pas pourquoi, le Seigneur agrée le sacrifice d'Abel et n'agrée pas le sacrifice de Caïn. Et ça, ce n'est pas très juste. Et comme dans ces récits de la Genèse, on explique le départ de l'humanité, Caïn est saisi d'un sentiment qu'il ne peut pas connaître auparavant. Et les conséquences de ce sentiment, qui est l'injustice, vont être terribles. Il va tuer Abel, mais c'est le premier assassinat de l'histoire. Comment peut-il savoir avant les conséquences d'un assassinat? Mais il est vraiment sujet à cette injustice, Caïn. Et Abel disparaît. vanité, fumée, buée, il réapparaît plus. Et qu'est-ce qui devrait se passer avec Caïn? Eh bien, normalement, on pourrait dire, si la loi du talion est déjà appliquée à l'époque, eh bien, il a tué son frère, alors qu'il soit tué lui aussi. Et c'est bien ce qu'il craint, Caïn. Il se retourne vers Dieu, enfin, Dieu vient plutôt le chercher, et puis, il va y avoir une double sanction. La sanction, c'est pas la mise à mort. Mais la sanction, c'est que Caïn va être éloigné du sol, alors que son père, souvenez-vous, c'est Adam, le terreux. Donc il perd ses racines, et puis il va être éloigné de la face du Seigneur. Il va perdre la proximité de son père spirituel. C'est un double exil. Et Caïn sait qu'il va risquer sa peau. Pourquoi ? Parce que par l'assassinat d'Abel, il a engendré la violence. À partir de ce moment-là, Caïn peut se retrouver face à des gens qui voudront le mettre à mort, ne serait-ce que pour venger Abel. Et le Seigneur le sait. Alors, dans un premier temps, il lui dit, la loi du talion démultipliée, si quelqu'un touche Caïn, il faudra qu'on tue 7 fois pour le venger. Et puis tout de suite après, on nous montre un Dieu qui a déjà changé d'avis. Il place sur le front de Caïn un sceau pour que personne ne le touche. C'est comme si Dieu, dans ce récit, se rendait compte qu'en menaçant de vengeance, même 7 fois plus celui qui toucherait Caïn, eh bien on ne ferait qu'augmenter la violence globale sur la terre. Et que le seul moyen, c'est que Dieu lui-même intervienne pour que la violence ne continue pas, donc que personne ne touche Caïn. Et vous allez me dire, c'est pas juste. Ben non, c'est pas juste. Et c'était pas non plus juste que le sacrifice de Caïn ne soit pas reçu et le sacrifice d'Abel soit reçu. C'est comme si dans ce texte de la Genèse, on nous disait que dès le départ, quelle que soit la faute qu'un être humain ait commis, on ne peut pas toucher à sa vie. C'est presque un manifeste contre la peine de mort. J'ai oublié que vous projetez les champs avec un beamer, je l'aurais amené sur ordinateur, mais j'ai trouvé un dessin de mix et remix que je trouve excellent. Alors, vous le voyez de loin, je vais vous le raconter. Hein. Le mieux, ça aurait été de le mimer. J'aurais pu demander à Sylvain, à un autre jeune, de jouer la scène, ça aurait été très drôle. C'est un gars qui a un bâton dans la main, un gourdin, et il y a l'autre qui lui dit « C'est quoi que tu tiens dans la main ?» Et il y a le deuxième qui dit « Ben, c'est un bâton. » Et l'autre lui dit « Et ça sert à quoi ?» Et le premier lui explique à quoi ça sert. Bing ! Et celui qui s'est fait assommer, il dit quoi ? Il dit « C'est top, j'en veux un. » C'est bête, hein ? Michel Cretenny et puis David Jeuncamp ont bien relevé que ces textes qu'on prend ce matin et qu'on prend durant tous ces cultes d'été, ils sont difficiles. Eh bien, ces textes, on les a pas inventés, la pastorale, pour vous punir de venir au culte les dimanches matins, mais en fait, ils sont tirés d'un ouvrage que je vous recommande chaleureusement, peut-être que les collègues vous en parleront aussi, je le souhaite. C'est un ouvrage d'un théologien qui s'appelle Thomas Römer, et cet ouvrage qui est paru chez Laboris Fides, donc édité à Genève, « Dieu obscur ». Le Dieu obscur, c'est ainsi que Luther, le réformateur, va essayer de comprendre quelle est la place du mal en lien avec Dieu. Vous savez que, quelle que soit la façon dont on appréhende la question du mal, on a de la peine à comprendre quelle est la position de Dieu par rapport à ça. Je travaille avec beaucoup de jeunes, et à la confirmation, ils prennent la parole, ils ont 17 ans, et la plupart disent « Je confirme le baptême que j'ai reçu enfant » ou « Je demande le baptême, mais j'ai de la peine à croire. Et s'il y a un Dieu, pourquoi il y a la violence? Pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a les guerres ?» Et c'est une vraie difficulté. Luther va parler d'un Dieu obscur comme la face cachée de la lune, qui à l'époque, personne ne l'avait vue. La lune, elle a une partie mystérieuse, une partie obscure, et pour Luther, Dieu a une partie visible, ou qui se révèle peut-être à travers les Écritures ou la prière, et puis une partie obscure qui pourrait être menaçante. Ça ne va pas du tout contre l'idée de la foi ou de s'adresser à Dieu. Dans nombre de psaumes, on se rend compte que Dieu peut être une menace, et le psalmiste, celui qui le prie, va lui dire « Montre-moi que tu es un Dieu bon ». Si on ne craignait pas un peu une face obscure de Dieu, pourquoi est-ce qu'on prie Dieu de se révéler à nous comme un Dieu bon? Alors bien sûr, on peut dire « Il y a le diable, il y a Satan ». Mais on va pouvoir dire, alors, mais qui a créé le diable? Qui a créé Satan? Et pourquoi est-ce que l'être humain est libre? Et pourquoi est-ce qu'il est libre de faire le mal? Caïn est libre de tuer son frère Abel. Eh bien, il y a une donne de départ dans l'existence. Et la Bible le rappelle, et je crois que cette donne, c'est que l'être humain est libre, qu'il est responsable, et qu'il participe, qu'il le veuille ou non, d'un monde qui est violent. On n'y échappe pas. Et celui qui est croyant peut s'adresser à Dieu et dire à Dieu « Montre-moi que tu es un Dieu bon » dans l'espoir que ce Dieu nous aide nous-mêmes à être bons. La grande leçon de Caïn, pour qu'il puisse continuer à vivre, c'est d'apprendre à supporter l'injustice. Et c'est peut-être l'apprentissage le plus difficile de l'existence. Tous, ici réunis, on a certainement des exemples d'une injustice qu'on a subie. C'est peut-être plus facile de dire quand on est jeune, parce qu'il n'y a qu'à dire « est-ce que votre frère ou votre sœur ne sont pas avantagés par rapport à vous ?» Et immédiatement, il y a tous les jeunes qui se marrent. Les psychologues disent que si on survit aux tensions familiales, on peut survivre à toutes les tensions dans l'existence, tellement ces tensions parfois sont violentes. Ce sentiment d'injustice, il est fort. Et puis après, on peut un peu retourner la question, puis on peut dire, mais est-ce que vous, parfois, vous ne créez pas des situations d'injustice? Et là, on lève les yeux, on a moins envie de répondre. Et forcément, on crée des questions d'injustice. Et ça, c'est une vraie réflexion. Et c'est un vrai positionnement de l'être humain sur la terre. Alors, je vais juste vous lire dans la fin du chapitre que Thomas Römer consacre à la violence et la condition humaine, ce qu'il dit de la gestion de la violence. La gestion de la violence ne suppose nullement sa négation ou son abstention dans les conflits qui secouent notre vie et notre époque. Affronter la violence, c'est y être mêlé. Anne Sylvestre, qui a composé une chanson sur Caïn et Abel, l'a fort bien ressenti. Abel, Caïn, mon fils, mon âme, comment démêler ton destin, comment protéger ta flamme sans par trop me brûler les mains. Pour ceux qui ne connaissent pas, Anne Sylvestre est une chanteuse qui existe, qui chante depuis 50 ans et qui est un peu l'équivalent féminin de Brassens, qui écrit des très beaux textes. Elle a fait cette chanson sur Caïn et Abel où elle se positionne comme Ève, comme la mère des deux, de Caïn et d'Abel, et forcément elle s'identifie aux deux. Et c'est très fort. Et nous pouvons aussi nous identifier à la fois en Caïn et en Abel et nous demander comment est-ce que nous gérons cette violence qui est à la fois nécessaire pour survivre et puis comment faire pour qu'elle n'augmente pas. Vous avez entendu par Michel Cretenny le commentaire que Jésus donne de la loi. C'était Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne. Et vous avez ce fameux passage où Jésus dit « Si on te gifle sur la joue droite, tends la gauche. Si on te demande de l'argent, si on t'emprunte de l'argent, donne-le. » Bien sûr, si on applique ça à la lettre tout le temps, il est fort probable qu'on ne survive pas. Mais dans le même temps, qu'est-ce que Jésus fait? Il commente la loi du talion. Il commente cette loi qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Il commente une loi qui, à l'origine, a certainement été promulguée pour contenir la violence. Quand on dit « œil pour œil, dent pour dent », c'est qu'on veut arrêter des cycles de vengeance, de vendetta, qu'on dirait en Italie par exemple, ou parce que quelqu'un m'a fait du mal, alors je vais l'y en faire, mais pour que ce soit satisfaisant, je vais l'y en faire un peu plus. Ça, c'est logique. Mais si cette logique continue, vous finissez par vous entretuer. En Sardaigne, il y a des familles entières, jusque dans les années 50, des clans qui se sont entretués parmi à cause de la vendetta. Et là, ça aurait été bien de rappeler ce qu'est la loi du talion. Ce n'est pas du tout une loi barbare. C'est de dire, eh bien, si quelqu'un t'a volé un mouton, vole-lui un mouton, mais pas à deux. Et quand vous posez la question aux adolescents, si vous dites, il y a votre frère, votre sœur qui vous provoque, qu'est-ce que vous faites? Ben, si c'est l'autre qui a commencé, voilà, on fait quoi? On le tape, merci. On le tape. Même dans les assemblées. Et t'as le droit de taper comment? Fort. Ouais. Et c'est ça, c'est exactement ça. T'as commencé, donc je te tape plus fort que tu m'as tapé.
Mais j'ai des sœurs,
ouais, c'est plus compliqué avec les sœurs. C'est vrai. C'est vrai. Mais si tu avais des frères, voilà. Mais la violence, elle n'est pas que physique, tu as noté. Elle peut être verbale, elle peut être symbolique, on peut embêter l'autre. Et forcément, on va essayer d'embêter un peu plus, non? Oui. Oui. Ben, je crois que quand Jésus commente la loi du talion, il fait l'analyse suivante, du moins c'est comme ça que je le comprends. Il dit, si on applique vraiment la loi du talion, elle n'est pas vraiment satisfaisante. Si quand on me bouscule, je bouscule l'autre de la même manière, ça n'enlève pas le fait que je me sois fait bousculer, que ça m'a dérangé ou que ça m'a fait mal. Si on m'a pris un œil, c'est pas parce que je prends l'œil de l'autre que ça va me rendre mon œil. Et donc Jésus fait le constat que celui qui respecte vraiment la loi, il va probablement renoncer à l'appliquer. Alors on ne peut pas toujours, mais on peut y tendre. On peut, quand on est agressé, essayer de ne pas rendre coup pour coup. Parfois, on n'arrive pas. Alors là, il faut peut-être rendre le coup de la même dureté que celui qu'on a reçu, mais pas plus. Et puis parfois, peut-être, comme Jésus, on reçoit la force de ne pas répondre. Et à ce moment-là, quelque part, c'est un peu de violence qui s'arrête. Et vous savez, dans les familles, et vous savez, dans les situations conflictuelles, et vous savez, en Église, qu'il faut bien à un moment donné qu'il y en ait qui arrêtent dans les conflits. Je reprends l'exemple d'Israël et des Palestiniens. Moi, j'ai été très touché en me rendant là-bas de la grandeur humaine de ceux qui, coûte que coûte, renonçaient à la violence. Même si on avait repris leur maison, même si on avait tué des membres de leur famille. Parce qu'ils comprenaient que rien ne leur rendrait ce qu'on leur a pris. Et ils renonçaient à basculer dans la violence. Et cette grandeur humaine, qui vient de la terre de Jésus, pour moi, elle m'impressionne beaucoup. Et aujourd'hui, c'est l'exemple même de la foi ou de l'humanité la plus profonde. Et je crois, et c'est le message que j'aimerais vous laisser, quand Michel Cretigny prenait l'exemple des communautés différentes, eh bien, on est en bon terme, heureusement, les communautés les unes avec les autres. Mais c'est un exemple à notre niveau de comment est-ce qu'on doit essayer de se comporter quand on se sent attaqué, de ne pas agresser l'autre. Et peut-être que vous ferez cette constatation que moi je fais. Parfois je me sens attaqué alors que je ne le suis pas. Et quand je ne le suis pas mais que je veux me défendre, alors c'est moi qui crée l'attaque. Donc de se positionner avec ce doute soi-même et de se dire peut-être que c'est bien que je ne réponde pas. Des fois après je me dis ben c'est bien que je n'aie pas répondu parce que je n'avais pas compris ce qui se passait. Alors souvenons-nous de cet enseignement de Jésus. Et en ce 1er août, eh bien, souvenons-nous aussi que de fêter notre pays, on peut en être fier, hein, c'est pas le dernier des pays, la Suisse, mais c'est aussi rappeler que l'héritage qu'on a de notre pays, c'est un héritage que nous devons gérer et que nous devons assumer et que nous devons sans doute aussi un peu manifester. Je vais terminer par là. L'autre photocopie que j'ai prise, c'est une copie du pacte fédéral de 1291. Vous savez à quelle époque on l'a retrouvé, ce pacte fédéral? Vous savez depuis quand on fête le 1er août ? Le pacte, il est de 1949, après la Deuxième Guerre mondiale. Non, quand même pas, avant. On l'a retrouvé au 18e, dans les archives du canton de Schwyz, qui a donné le nom de Suisse, Schwyz. On l'a retrouvé là, et c'est avec la montée des nationalismes au 19e qu'on a remis en avant la fête nationale. Ce pacte date d'août 1991. On va décider qu'on le fête le 1er août. Et depuis, chaque année, sur la prairie du Grütli, où ce pacte a été historiquement probablement fait, les conseillers fédéraux ou les présidents de la Confédération prennent la parole. Bien, ce pacte, historiquement, ce n'est pas un pacte d'autonomie de la Suisse. C'est trois cantons qui font un pacte, mais ils font toujours partie du Saint-Empire romain germanique. C'est la première chose. Et il faut le rappeler, parce que dans deux discours de conseillers fédéraux, qui ont pris la parole, un en 2005, un en 2007, je vous en cite des petits extraits, vous verrez comment on peut rappeler ce pacte différemment. En 2005, pour le 714e anniversaire du pacte, c'est le conseiller fédéral Christophe Blorer, de l'Union démocratique du Centre, qui utilise ce pacte pour souligner l'importance du refus de toute domination étrangère proclamée dans le pacte de 1291. Vous voyez le truc venir. L'idée essentielle, je cite Blorer, de ce document historique porte sur la reconnaissance de notre propre responsabilité et sur le refus de toute domination étrangère. À l'époque, la question posée était simple. Il s'agissait de savoir qui devrait décider des relations internes des localités autour du lac des quatre cantons. La réponse donnée à l'État des Habsbourg, apparemment organisé, harmonisé et unifié, était une fin de non-recevoir claire et nette. En gros, en 1291, ils ont dit non aux Habsbourg, et aujourd'hui on est invité à dire non à l'Europe. En 2007, la présidente de la Confédération, Micheline Calmiret, je ne vous la présente pas, du Parti Socialiste, a prononcé un discours aussi sur la prairie du Grütli. Elle dit « Cette prairie n'est pas une prairie comme les autres. Elle est le symbole de la Suisse, le symbole de ce qui nous unit. Ici est née la Suisse moderne, sociale, démocratique et diverse. » La pluralité, on l'a partout. On l'a dans l'Église, on l'a entendu ce matin dans l'Épître aux Hébreux qui dit que le sacrifice d'Abel est reçu parce que, en son cœur, Abel est juste. Et puis, quand on lit Genèse 4, on se rend compte que le texte ne dit pas ça. Déjà là, on a une pluralité. La pluralité, elle est partout, et nous devons nous rappeler que la façon dont nous traitons ce qui est étranger, ce qui est différent de ce que nous pensons, eh bien, la manière dont nous le traitons, c'est sans doute là que nous nous révélons vraiment. Quand nous nous accueillons les uns les autres sur ce que nous avons de commun, c'est assez facile. Mais quand l'autre est différent, c'est là que nous montrons en quelque sorte notre vrai visage.